J'allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité scientifique des laboratoires de Muse, Montpellier, université d'excellence. Poumons, prostate, sein, côlon, os, rares sont ceux à ne pas compter parmi leurs proches une personne atteinte d'un cancer quand ils ne sont pas eux-mêmes touchés. Selon l'Institut national du cancer, en 2018, 382 000 nouveaux cas ont été dépistés en France métropolitaine. Parmi ces cas, 58 000 étaient des cancers du sein, le plus meurtrier pour les femmes âgées de 35 à 65 ans, une sur huit y sera un jour confrontée. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter depuis 30 ans. Un constat alarmant, pessimiste même, que fort heureusement, la science et ses progrès viennent un peu éclaircir. Parmi toutes les voies que celle-ci contribue à ouvrir, il en est une particulièrement prometteuse, les CTC, pour cellules tumorales circulantes. Des cellules qui, en transportant entre guillemets le cancer à travers nos vaisseaux sanguins, donnent également de précieuses indications sur la possible évolution de la maladie et les meilleurs traitements à adopter. En 2020, un essai mené au CHU de Montpellier a permis de démontrer pour la première fois au niveau mondial l'utilité clinique des CTC dans le choix d'un traitement pour lutter contre le cancer du sein métastatique. Notre invitée du jour est directrice du laboratoire cellules circulantes rares humaines au CHU de Montpellier. Elle travaille depuis plus de 20 ans sur cette thématique et en a bouleversé l'approche avec le concept de biopsie liquide. Ses travaux sont reconnus dans le monde entier, comme en témoignent les nombreux prix qu'elle récolte sur son chemin. À commencer par le prix de l'Académie de médecine, Gallet et Breton, un prix pour toute une carrière de la Société internationale de biopsie liquide. Donc Catherine Alix Panabière, bonjour.
Bonjour.
Avec moi, comme chaque semaine, pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, nous vous emmenons étudier les plantes sur le plateau d'histologie et de biomécanique du laboratoire AMAP. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57.
Alors, Catherine Alix Panabière, on a l'habitude de commencer cette émission par une question basique. Et celle-ci, elle ne va pas être facile en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? Et finalement, comment ça se forme un cancer?
Oui, alors effectivement, je vais vous parler des cellules tumorales. En fait, on a des cellules qui, composent un organe, hein, comme les cellules mammaires dans le sein, dans le tissu mammaire. Et en fait, à un moment donné, une cellule tumorale va devenir complètement anarchique. Elle ne va plus, interagir de manière normale avec les cellules voisines, avec les cellules environnantes, qu'elles soient identiques ou non, ce qu'on appelle un peu les cellules stromales aussi, les cellules du système immunitaire. Et en fait, elles vont de manière anarchique se développer, se répliquer, se multiplier. Et donc, on va avoir une excroissance de tissus, de cellules, qui vont donc donner une tumeur, un cancer.
Très bien. Alors, il y a une autre notion dont on va avoir besoin pour comprendre le déroulé de l'émission, c'est les métastases. Qu'est-ce que c'est qu'une métastase?
Alors, une métastase, c'est vraiment une cellule qui est issue de cellules qui auront essaimé, de cellules tumorales qui auront essaimé de la tumeur initiale. Donc, elles auront disséminé, elles auront été invasives et elles ont voyagé dans le corps humain pour aller se loger dans des organes à distance. Et c'est ce que l'on appelle métastase, donc une tumeur qui se réinitie à distance de la première.
Alors, Lucie, on a parlé en introduction. Vous vous intéressez, vous en particulier, à ce qu'on appelle les CTC, les cellules tumorales circulantes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ce que sont ces cellules?
Oui, alors, dès la formation d'une tumeur, même si elle est toute petite, on peut avoir des cellules plus agressives que les autres qui vont avoir la capacité en elles-mêmes de se décrocher activement de la tumeur, de pouvoir être invasives, de trouver des systèmes pour se frayer un chemin, d'atteindre un vaisseau sanguin et de pouvoir, justement, après, voyager dans le sang pour atteindre justement de manière spécifique des organes à distance. Et donc ces cellules tumorales circulantes, ce sont des cellules que l'on retrouve particulièrement, par exemple, dans le sang.
Donc avec le docteur Klaus Pantel, je prononce bien son nom, avec le docteur Klaus Pantel de l'hôpital de Hambourg, vous êtes à l'origine donc d'un concept qui a révolutionné cette approche, comme on le disait en introduction, la biopsie liquide. Donc en quoi ça consiste et en quoi c'est différent d'une biopsie traditionnelle, on va dire?
Oui, alors la biopsie liquide, on a inventé ce nom en 2010 et c'est pour ça qu'il a été publié pour la première fois et il est utilisé de partout dans le monde. En fait, on a pensé à une biopsie liquide puisque c'est un simple prélèvement de sang non invasif que l'on peut faire de manière répétée, à l'inverse d'une biopsie tissulaire qui peut être invasive. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de biopsie liquide. Et effectivement, la biopsie liquide, aujourd'hui, on parle de cellules tumorales circulantes. On parle aussi d'autres éléments figurés du sang, comme par exemple l'ADN tumoral circulant, les exosomes, les micro-ARN, on y reviendra de toute façon, et que l'on peut détecter dans le sang, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est le plus fréquent, mais aussi aujourd'hui on parle des autres fluides biologiques, comme par exemple l'urine, l'expectoration, la moelle osseuse, le liquide céphalorachidien, etc. Et on a des études justement qui ne se limitent pas au compartiment sanguin. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que la biopsie liquide aussi, c'est vraiment quelque chose que l'on appelle en temps réel, c'est comme ça qu'on l'a défini aussi. Pourquoi ? Parce que ce soit l'ADN tumoral circulant ou les CTC, les cellules tumorales circulantes, elles ont un temps de demi-vie qui est très très court, c'est-à-dire qu'on sait qu'elles ne vont résister dans le sang qu'un temps très court, moins de 2 heures, moins de 1 heure. Donc quand on voit un élément à un instant T, on se dit c'est quelque chose qui est en train de se passer.
Et alors, vous expliquez dans un article qui a été publié en décembre dans le magazine Pour la Science que dans 7,5 millilitres de sang, on trouve moins de 10 CTC. Vous cherchez vraiment une aiguille dans une botte de foin, en fait. Comment est-ce que vous faites pour les trouver, ces cellules tumorales circulantes ?
Exactement. Ça fait 23 ans que je travaille sur cette thématique. Et effectivement, on a mis au point et on a monté un laboratoire assez unique en Europe où on a des systèmes particuliers pour aller justement isoler, détecter des cellules tumorales circulantes. Et vous dites moins de 10, oui, on peut en détecter une dans 7,5 ml de sang. Donc là, on a différentes stratégies au laboratoire. Soit on va aller les cibler directement en positif, j'allais dire, comme si on allait pêcher quelque chose en positif. Ou alors on peut éliminer ce qu'on ne veut pas et on garde tout ce qui reste.
Qu'est-ce que vous appelez en positif ?
Alors, on va utiliser par exemple un marqueur spécifique de surface et on va prendre des anticorps protéines, par exemple, de surface, et on va pouvoir cibler comme si on allait pêcher directement en sélection positive cette cellule tumorale circulante. Ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, on n'a pas de marqueur de tumeur. On va aller chercher une cellule épithéliale, puisqu'on parlait du cancer du sein. On va chercher une cellule épithéliale qui d'habitude ne se retrouve jamais dans le sang. Les sujets sains n'ont pas de cellules épithéliales qui circulent. Nos organes sont vraiment solides et en cohésion avec eux-mêmes. Quand on a des cellules qui se décrochent épithéliales et qui circulent dans le sang, ce sont des cellules malignes. Que ce soit chez des sujets qui ont des pathologies bénignes ou des sujets plus âgés, on n'a jamais de cellules d'organes qui circulent comme ça dans le sang. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller rechercher des protéines spécifiques de cellules épithéliales qui nous permettent d'aller, entre guillemets, pêcher ces cellules dans le sang. Et bien évidemment, ensuite, on applique des techniques de détection de ces cellules tumorales circulantes. Ou encore une fois, on va aller chercher d'autres marqueurs, mais toujours spécifiques de cellules épithéliales.
Très bien. On y reviendra sur les autres marqueurs. Mais avant, donc, la biopsie liquide, elle permet, je crois, de détecter des cancers précoces, enfin de faire une détection précoce, on va dire, du cancer. Comment ça fonctionne ? Ça veut dire que une tumeur même précoce peut commencer à disséminer, par exemple ?
Oui. Oui, en fait, on a des cas de figure où on est en train d'analyser des prélèvements sanguins de patients qui ont soi-disant un cancer localisé. Et on se rend compte que dans un certain pourcentage des cas, on a déjà des cellules qui circulent. Ça veut dire qu'effectivement, on ne voit pas tout avec la biopsie tissulaire. Et on peut croire et ni avec la radiologie. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a déjà, au niveau cellulaire, des choses qui bougent, alors qu'on ne le voit pas avec les techniques actuelles, ou la radio, l'imagerie, etc. Ce qui fait que c'est tout à fait important et novateur aujourd'hui de se dire qu'un simple prélèvement sanguin pourrait donner vraiment une avancée spectaculaire dans, effectivement, la détection précoce d'un cancer. Alors, juste pour revenir sur ce point, je ne voudrais pas qu'il y ait de mésentente, mais en fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de test de dépistage ou de screening, en fait, de cancer. Et on est en train de travailler sur un gros projet européen sponsorisé par la Fondation ARC contre le cancer, justement, pour la France. Et on est en train d'essayer de mettre en place une signature sanguine qui nous permettrait de dire est-ce qu'on a un cancer de la prostate ou pas ? Et si on en a un, est-ce qu'il est agressif ou pas ? Donc voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont en cours d'étude, mais on travaille plus avec la biopsie liquide sur des cancers localisés, mais qu'on connaît déjà, ou alors sur les cancers métastatiques.
Mais alors, du coup, c'est vraiment une source d'information très précieuse pour vous, ces cellules tumorales circulantes. Est-ce que ça vous renseigne également sur, justement, la source de la maladie elle-même ?
Oui. Alors, ce qui est intéressant avec une cellule, comparativement à d'autres éléments figurés du sang, c'est que c'est une cellule entière. Elle est vivante, elle est plus agressive. Donc, elle a décidé de par elle-même de quitter la tumeur initiale. Elle se retrouve dans le sang. Et on a tout avec une cellule. On a tout le génome, on a le transcriptome, on a le protéome, on a le sécrétome. Et si on arrive à les isoler, comme on l'a fait nous aussi, on arrive même à les mettre en culture. Et on a été les premiers et les seuls à mettre en culture des cellules tumorales circulantes dans le cancer du côlon. Et on a une série, par exemple, de 9 lignées CTC. Ce qui est extraordinaire parce qu'on peut suivre l'évolution de la maladie entre avant et après l'initiation du traitement. Donc pour revenir à votre question, on a énormément d'informations sur quelque chose qui est quand même actif. Alors, ce n'est pas du tout pour dénigrer d'autres biomarqueurs qui sont très complémentaires, mais l'ADN tumoral circulant, qui est très précieux aussi, est complémentaire des CTC, et on l'étudie aussi, est quand même libéré par des cellules en apoptose et en nécrose. Donc, ce n'est pas du tout la même information que l'on obtient, en tout cas pour comprendre le processus métastatique. Mais ça reste un biomarqueur de choix, et on verra les différences tout à l'heure, et à quel point c'est complémentaire.
Et dans un autre article, justement, vous évoquez, notamment par rapport à la biopsie liquide, le risque de surdiagnostic. Ça correspond à quoi? Ça veut dire qu'on risque de diagnostiquer des cancers qui n'en sont pas ou trop tôt?
Avec la biopsie liquide?
Oui.
Alors non, enfin, il faut faire attention, effectivement, par exemple, avec l'ADN tumoral circulant, ce qui est important, ce n'est pas parce qu'on a une mutation que l'on va détecter qu'on a forcément un cancer derrière. On sait que, par exemple, chez des sujets qui prennent de l'âge, par exemple dans le cancer de la prostate, c'est effectivement sur des sujets plus âgés, on a des mutations qui peuvent apparaître, mais qui n'ont rien à voir avec la présence d'un cancer. Il y a des belles études qui ont été faites aussi dans le cancer de l'ovaire. Donc, il faut faire attention à ce genre de... C'est pour ça qu'un screening, c'est toujours délicat de partir sur une mutation unique, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe chez ce patient-là. Donc l'idée dans le futur, ça va être la combinaison de plusieurs biomarqueurs qui sont circulants pour effectivement essayer d'être complémentaires et de travailler sur un volume de sang suffisamment conséquent aussi. Alors, puisqu'on cherche une aiguille dans une botte de foin, il faut travailler sur un volume important.
Je vais rebondir justement sur ce que vous venez de dire, la combinaison de biomarqueurs. Vous en avez parlé dans un article que vous avez signé dans Nature en 2020. Donc vous disiez, il est urgent de proposer des combinaisons de biomarqueurs circulants spécifiques du cancer afin de définir le statut, l'origine et la progression d'un cancer considéré. Donc, de quel biomarqueur est-ce que vous parlez ici et quelles informations justement ils peuvent vous délivrer ces autres
biomarqueurs ? Tout à fait. Donc là, quand on parle de biomarqueurs circulants, je fais allusion bien évidemment aux cellules tumorales circulantes, à l'ADN tumoral circulant qui, comme je l'ai dit, est relargué par des cellules qui sont en apoptose et qui vont libérer de l'ADN. Et là encore une fois, il faudra bien faire attention de ne pas regarder l'ADN normal circulant qui existe aussi parce que nos cellules meurent et libèrent aussi de l'ADN, hein, mais qui est normal, chez des sujets âgés qui ont des mutations mais pas de cancer, etc. Donc c'est pour ça que ce n'est pas aussi simple qu'on le pensait à l'époque. Et donc beaucoup de groupes scientifiques travaillent là-dessus. Et on a la chance de travailler avec le professeur Luis Diaz, qui travaille donc aux États-Unis et qui a été nommé par le président Joseph Biden récemment pour être son bras droit au niveau du board cancer aux États-Unis. Et lui, c'est vraiment un grand spécialiste de l'ADN tumoral circulant, mais aussi il a montré dans un gros papier récemment aux États-Unis la technique CancerSeq, où justement il combine des protéines, 8 protéines connues, avec l'ADN tumoral circulant. Donc encore une fois, on va aller vers quelque chose qui est multiparamétrique, surtout pour quelque chose que l'on veut détecter précocement. Et je pense qu'on arrivera dans ce sens. Donc on est très optimiste.
Alors en parlant d'optimisme, vous me dites aussi que cette biopsie liquide, elle s'avère utile pour suivre la résistance au non ou traitement des cancers. Est-ce qu'un cancer est sensible au traitement ou est-ce qu'il est résistant, enfin, personnaliser ce traitement? Comment est-ce que ça fonctionne ça? Comment est-ce que vous
Oui,
vous
alors là, c'est effectivement important de dire que, par exemple, je vais prendre l'exemple des CTC, on peut très bien analyser, déjà le nombre est important, donc c'est quantitatif. Plus on a de cellules tumorales circulantes, plus c'est grave, entre guillemets, et de ne pas en avoir, c'est toujours mieux que d'en voir. Donc c'est quantitatif et qualitatif, parce qu'effectivement, on va voir s'il y a l'expression d'une protéine de surface, par exemple. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de thérapies ciblées qui existent pour traiter le cancer, différents types de cancers. Et donc, c'est important, par exemple, d'aller jusqu'à rechercher l'expression d'une protéine sur la cellule tumorale et de se dire, ben voilà, on a identifié une cible thérapeutique, on va donner ce traitement puisqu'il y a ce récepteur qui est exprimé et on a par hasard, par chance, une thérapie ciblée qui va justement aller contre ces cellules tumorales. Donc, c'est là où, en fait, on peut essayer de cibler, j'allais dire, le bon traitement. C'est ce que l'on dit à la médecine de précision, le bon traitement à la bonne personne au bon moment. Et en même temps, on peut très bien, une fois que le traitement a été initié, suivre ce patient et voir des résistances, des mécanismes de résistance se mettre en place, puisqu'on va sélectionner des clones qui vont résister. Hein, c'est un peu l'évolution dans la biologie, avec des clones qui vont être plus agressifs et résistants à ce que l'on donne. Et là, encore une fois, on pourra être en amont de la radiologie et d'identifier ces mécanismes de résistance suffisamment tôt pour changer le traitement, avant qu'effectivement on puisse voir une métastase apparaître à l'imagerie.
Et donc par exemple, ça vous permettrait de donner une orientation au médecin pour opter soit pour une hormonothérapie ou une chimiothérapie ?
Exactement, donc ça c'est effectivement la belle étude française que l'on a fait, qui était aussi faite en close collaboration avec, en proche collaboration avec l'Institut Curie et plein d'autres centres, mais dont l'ICM à Montpellier et le CHU de Montpellier, où effectivement on comptait simplement, on n'identifiait même pas, on ne caractérisait même pas les CTC, on faisait juste un simple comptage. Et on sait que de 0 à 4 cellules tumorales circulantes dans 7,5 ml de sang, c'était considéré comme étant de bons pronostics, donc on orientait le clinicien vers de l'hormonothérapie. Et si, par exemple, on avait 5 CTC par 7,5 ml de sang ou plus, donc vous voyez, ce n'est pas grand-chose la différence, c'était considéré comme étant de mauvais pronostics. Et là, on forçait le clinicien à donner de la chimiothérapie d'emblée. Et effectivement, dans cette étude, ça a été très joli. On a inclus plus de 800 patientes cancer du sein métastatique. On s'est rendu compte que le bras CTC était très positif. Donc, et on a aussi évalué la qualité de vie des patientes. Et également, c'était une évaluation médico-économique. Donc aussi le coût pour l'État qui était finalement un gain de traiter au mieux le patient à l'instant T.
Alors, vous avez également breveté deux technologies, EpiSpot et EpiDrop. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer en quoi elles consistent un
petit peu ? Oui, alors ça, on est très fiers en 2002 d'avoir breveté finalement cette technologie qu'on a développée donc, au sein de l'Université de Montpellier et du CHU de Montpellier. Et le plus récent, en 2016, grâce à la SAT à XLR locale. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller détecter des cellules tumorales circulantes fonctionnelles. Que l'on faisait, j'allais dire, de manière groupée à l'époque avec l'EpiSpot, mais la version la plus récente qui est l'EpiSpot in a drop, ça veut dire l'EpiSpot dans une goutte, on fait en fait un marquage des CTC après enrichissement. Ensuite, une fois qu'elles sont marquées, on les encapsule une par une dans des micro-gouttes avec un milieu réactionnel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que derrière, on peut voir une activité de la CTC à la cellule unique dans les micro-gouttes.
Les micro-gouttes, c'est comme une puce, non ? C'est ça ?
Alors, on a une micro-puce, mais les micro-gouttes, c'est comme... en fait, on les génère avec de l'huile et un milieu réactionnel. Donc, ça donne des petites gouttelettes d'huile avec un milieu réactionnel. On ne travaille plus dans un tube, mais on travaille dans une micro-goutte, un peu comme la digital PCR. Voilà, que beaucoup de scientifiques connaissent et utilisent. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une cellule dans une goutte qui va être marquée, mais en même temps, on va faire une mini-culture cellulaire, ce qui fait qu'on va voir ce qu'elle est capable de sécréter, ce qu'elle est capable de relarguer ou de cliver. Et donc, ça nous donne des informations sur la fonctionnalité des CTC, ce que les autres techniques aujourd'hui ne sont pas capables de faire. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'enchaîner sur une start-up, mais aussi de développer quelque chose de tout à fait nouveau que personne ne fait aujourd'hui, c'est l'oncogramme. C'est-à-dire aussi d'essayer de voir si un médicament va être actif directement sur les cellules les plus agressives, les CTC. Grâce à ces micro-gouttes, on va inclure directement dans la micro-goutte le médicament. On verra s'il est capable de s'accrocher sur la CTC et s'il est capable de détruire cette CTC. Et à un moment donné, ça fait un peu un parallèle comme l'antibiogramme où on va sélectionner le bon antibiotique pour la bonne infection bactérienne. Et là, on va faire la même chose pour le cancer.
Alors, vous venez de solliciter l'évaluation par la Haute Autorité de Santé de la détection des CTC dans le cancer du sein métastatique comme acte de biologie médicale. Est-ce que ça signifie que tous les patients pourront bénéficier des avantages de cette biopsie liquide ?
Alors, on l'espère. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait une validation par la Haute Autorité de Santé, hein, l'HAS. Et c'est pour ça, avec nos collègues et amis de l'Institut Curie, on a vraiment déposé un dossier officiel pour dire, grâce à ce stick MetaBreast qui a donné des résultats extraordinaires, on a prouvé qu'on savait quels étaient les patients qui devaient recevoir soit de la chimio, soit de l'hormonothérapie. Donc aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est vraiment avoir un test remboursé pour ces patientes qui auraient un cancer du sein métastatique et donc qui pourraient bénéficier de ce test sanguin. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire au tout venant. On le fait dans des études de recherche clinique translationnelle où les patientes signent un consentement éclairé. Donc ce n'est pas vraiment la même chose. Mais si demain l'HAS nous valide ce système, on pourrait avoir un vrai B. Et on pourrait, avec une prescription médicale, aller au laboratoire et demander un test CTC qui serait du coup très informatif pour les oncologues médicaux.
Vous nous avez parlé donc de ce grand essai que vous avez fait sur les cancers du sein métastatique, il est difficile à dire ce mot, métastatique, il y a un autre essai en cours sur le cancer de la prostate, c'est bien ça ?
Voilà, on a voulu avec notre collègue, le professeur Culine à Paris, déposer un projet similaire, mais cette fois-ci dans le cancer de la prostate métastatique. Et c'est vrai, comme vous me le disiez tout à l'heure, est-ce que tous les patients pourraient en bénéficier ? Il est important aujourd'hui, malgré tout, de montrer patte blanche et justement de faire une validation. Dans le cancer du sein, c'est fait. Là, on est en train de le faire dans le cancer de la prostate, etc. Et il faut le faire pour les différents biomarqueurs circulants.
Alors, on l'a dit, vous travaillez sur le cancer du sein, notamment depuis maintenant plus de 20 ans, 23 ans,
23
je crois.
Ans.
Quelle est la différence entre une femme qui apprend qu'elle a un cancer aujourd'hui, en 2022, et la même femme qui l'aura appris en 2000 en termes d'évolution et de pronostic pour elle ?
Alors, bah, effectivement, déjà la biopsie liquide, on espère que ça pourra personnaliser davantage le traitement et la médecine qui pourrait en suivre. Donc ça, ça va être une vraie avancée pour les patients qui ont un cancer, que ce soit pour le dépistage, la prise en charge et le suivi en fonction des résistances aux médicaments. Mais déjà aujourd'hui, alors je ne suis pas oncologue médicale, mais aujourd'hui, on peut être déjà sûr que le dépistage est bien plus important qu'à l'époque. Donc la prévention, le dépistage, mais également les traitements qui sont beaucoup plus précis, qui sont beaucoup plus, qui sont appropriés. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas traiter un cancer du sein comme à l'époque. Il y en a beaucoup plus de guérison et de rémission qu'à l'époque. Donc on arrive de plus en plus à cerner cette maladie. Et donc il faut être optimiste pour les patients qui ont un cancer.
Merci beaucoup Catherine Alix Panabière. Avant de vous laisser, je reviens sur deux petites informations. Donc j'ai cité vos prix, quelques-uns de vos prix en introduction. Je n'ai pas cité le tout dernier, donc le prix Savchuk, c'est celui qui est dur à dire, c'est pour ça que je l'ai zappé. Donc le prix Savchuk d'une fondation ukrainienne, c'est bien ça ?
C'est ça, une fondation ukrainienne qui est basée à Monaco et qui veut effectivement mettre, toute l'énergie sur la recherche sur le cancer, puisque M. Savchuk est décédé d'un cancer et donc sa famille tient vraiment à suivre la recherche sur le cancer. Donc pour moi, c'est un prix important. C'était le plus gros qui a été donné au 15e Biennale monégasque de cancérologie, qui est quand même le plus grand congrès francophone qui existe aujourd'hui. Et pour moi, c'est un départ. C'est pas juste un prix. C'est vrai que c'est aussi, j'ai appris à connaître cette fondation, la directrice et la présidente. Et il est vrai que le but est vraiment de démarrer des projets avec Monaco, avec cette fondation, et ils vont, nous escorter dans cette direction. Ils ont été ravis de découvrir la biopsie liquide, et c'est vrai que ça semble vraiment important de l'intégrer de plus en plus dans ce qui va arriver dans un futur proche.
Et il était donc important de le rappeler. Deuxième information, à partir de septembre 2022, vous participez à une exposition à la Villette, c'est bien ça, à Paris ?
Oui, je vais commencer le tournage la semaine prochaine à Paris, et c'est vrai que le professeur Alain Chen m'a demandé de couvrir tout ce qui est biopsie liquide dans cette grande exposition sur le cancer, qui sera d'ailleurs ouverte au grand public à la Cité de la Science, donc la Villette à Paris, pour 18 mois à Paris à partir de septembre, et puis après, ce sera exporté à l'étranger. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie entière du cancer aujourd'hui, cette biopsie liquide.
Un grand merci à vous. On passe maintenant à notre séquence reportage. Et Aline, tu nous emmènes au CIRAD, c'est bien ça ?
Oui, Lucie, en route pour le laboratoire de botanique et modélisation de l'architecture des plantes et des végétations, où Nick Rowe, avec son projet GrowBot, étudie les propriétés des plantes grimpantes qui peuvent inspirer de nouveaux robots.
Bonjour, je suis Nick Rowe, je suis directeur de recherche CNRS et je suis le responsable scientifique pour cette plateau technique. Voilà, on fait la recherche sur la biomechanical anatomy.
Et donc là, on est sur le site du CIRAD, au laboratoire AMAP. Vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est que ce laboratoire ?
Oui, en fait, dans ce laboratoire, on travaille sur la propriété biomécanique des plantes, surtout dans les forêts tropicales, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. Et on fait beaucoup d'observations sur le terrain, mais ici, on fait des mesures mécaniques sur les plantes, sur les tiges, les feuilles, les pétioles, les racines. Après, on a les mesures mécaniques, on fait des analyses anatomiques.
Donc ça s'appelle le plateau d'histologie et de biomécanique, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement, oui. Dans cette partie de la pièce, on fait les mesures mécaniques. Dans cette partie de la pièce, on a beaucoup de types de microscopes, les loupes binoculaires, une nouvelle génération de microscopes digitales, où on a une très bonne profondeur de champ. On fait des observations sur les préparations. Donc ici, le but, c'est de faire des observations, des mesures mécaniques, et puis préparer le matériel au niveau anatomique. Notre spécialité, c'est les plantes grimpantes, les lianes. Les plantes grimpantes sont très, très particulières, très, très différentes des arbres, parce qu'au début, ils sont rigides quand ils veulent trouver un support. La clématite, le chèvrefeuille, au début, ils cherchent les supports. Après, ils s'attachent, ils deviennent très, très flexibles. Et ils ne cassent pas. Et cette transition entre les matériaux naturels qui sont d'abord très rigides et puis ils se développent en flexibilité qui est résistant à la fracture, à la rupture, ça c'est très intéressant pour les approches biomimétiques.
Et comment elle s'appelle cette machine justement qui vous sert à mesurer ça?
Ça s'appelle une machine d'essai, tout simplement, machine d'essai universelle. On peut faire toutes sortes de essais avec cette machine. On peut même couper le matériel, on peut fixer un lame rasoir ici, et on peut mesurer la force de la rupture, l'énergie de la rupture, la force nécessaire pour casser un matériel, pour couper un matériel. Et ces approches sont très intéressantes pour beaucoup de traits fonctionnels. On dit en écologie des plantes, on appelle ces caractéristiques des traits. Et avec les approches biomécaniques, on peut explorer beaucoup plus des traits quantitatifs avec la force, avec la flexion, avec la tension, la force de la rupture. Tous ces paramètres donnent beaucoup plus d'informations sur le fonctionnement des plantes.
C'est du matériel que vous avez récolté sur le terrain, du coup. Ça vient d'où?
On peut faire deux choses. On peut étudier des plantes d'ici, de la zone méditerranée, ou on peut aussi en étudier les plantes dans les tropiques, dans la forêt. Donc c'est une spécialité de notre labo ici à AMAP, de travailler sur le terrain, dans les tropiques surtout, la forêt tropicale. Et pour ça, une partie importante de notre plateau technique ici, c'est d'avoir les machines qu'on peut amener avec nous. On a miniaturisé les machines comme ça pour qui permet de faire des tests sur le terrain.
On m'a dit que vous aviez un nouveau type de microscope. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Est-ce qu'on peut le voir?
C'est un microscope digital. On n'a pas des oculaires. L'avantage avec ce microscope, c'est qu'on a une grande profondeur de champ. On peut faire une série de photos à plusieurs niveaux. Et même avec un grand grossissement, on a une bonne mise au point pour toute la profondeur de l'échantillon.
Et qu'est-ce que vous regardez sur ces échantillons, justement?
Ce qu'on est très intéressé pour voir la géométrie des tissus dans les espèces différentes, entre les stades jeunes et les stades anciens, pour voir cette transition entre très rigide et très flexible.
Sur les plantes grimpantes?
Sur les plantes grimpantes. Et comme ça, on peut vraiment quantifier les proportions de tissus rigides, les types de tissus, les mélanges de tissus, les types de croissance, le type de croissance additif, quand le tissu, le type de bois peut changer pendant la croissance, et ça peut changer la propriété mécanique de la tige. Ça fait un peu de révolution dans notre laboratoire pour les observations avec le microscope.
Ah oui, alors là, donc on voit l'image sur l'écran qui va avec le fameux microscope. Qu'est-ce qu'on peut décrire et ce que vous pouvez nous dire?
Ici, par exemple, on voit les combinaisons de tissus qu'on peut associer avec les propriétés mécaniques.
C'est quoi comme plante?
C'est une plante qui s'appelle Dolichocarpus. C'est une plante grimpante qui pousse dans la forêt en Guyane. On la trouve très souvent dans la lisière. Sur l'extrémité, il porte les tout petits crochets et il commence avec les tiges très rigides pour chercher le support. Et après, il trouve un support, la tige devient très flexible. Et cette tige-là, il est sur le point de commencer d'être flexible.
Et du coup, ces observations-là que vous faites sur le plateau ici à Montpellier, elles vous permettent de mieux comprendre comment fonctionnent les plantes dans leur milieu naturel?
Oui, exactement. Et notre un projet que nous avons dans le laboratoire, ça s'appelle GrowBot, c'est un projet européen avec les partenaires, les chimistes, les physicistes, les spécialistes de robotique. C'est un projet qui essaie de trouver les traits fonctionnels intéressants chez les plantes grimpantes, la capacité de chercher du support, la capacité d'être rigide et puis très flexible. On essaie d'intégrer ces caractéristiques naturelles chez les plantes pour une nouvelle sorte de robotique, pour les nouveaux robots qui sont capables de la croissance et qui sont capables de traverser les espaces. dans les endroits très aléatoires, peut-être après un tremblement de terre ou dans une zone très dangereuse pour l'homme d'aller voir les choses. L'idée, c'est d'avoir des robots qui peuvent explorer les endroits difficiles et réguliers, comme les plantes grimpantes dans la forêt.
Donc vous inspirez des capacités des plantes grimpantes pour pouvoir concevoir des robots comme ça, c'est passionnant.
Exactement.
Vous travaillez avec des roboticiens, du coup ?
Oui, les roboticiens en Italie, dans un institut qui s'appelle IIT, avec Barbara Mazzoli, qui est la chef du projet.
C'est très transdisciplinaire, finalement. Exactement. De la botanique à la robotique.
Exactement.
On a des autres appareils ici. Ici, c'est un pendule mouton. Et en fait, avec cet appareil-là, on peut calculer la force nécessaire pour casser quelque chose.
Ah, et c'est pas ce qu'on regardait déjà sur celui de tout à l'heure.
Ici, c'est un appareil qui fait les mesures en choc. On a un impact, on a le matelas là qui est dans une position élevée et on peut déclencher la machine.
C'est une branche que vous mettez en dessous ?
On peut mettre une branche, une petite tige, un morceau de bois et on dégage la machine ici. Le matelas descend.
Oui, donc là, on a le marteau qui descend et qui vient taper sur l'échantillon.
Il casse l'échantillon. Et la machine mesure le point après l'impact, il mesure la distance et avec cette distance, il peut mesurer la force qui était nécessaire pour casser l'échantillon. Et ça, c'est très intéressant pour voir comment les plantes sont résistantes au choc. Les plantes grimpantes sont très résistantes au choc. Et quelque chose de très intéressant pour nous, c'est de voir quelle est l'organisation de tissus dans les anciennes tiges de lianes qui sont très flexibles et résistantes au choc, et voir comment l'organisation de tissus peut optimiser la résilience et la résistance aux fractures. Ça, c'est très intéressant pour les nouvelles technologies, pour les nouveaux types de tuyaux, les nouveaux types de câbles qui ne vont pas casser après un accident, après une explosion, après un impact.
Vous pouvez vous inspirer du coup de ça pour tout ce qui va être création de nouveaux matériaux d'air.
Oui, les nouveaux matériaux qui ne vont pas casser, qui vont toujours fonctionner un petit peu, même après un grand événement destructif. Et ça, c'est très intéressant pour les nouvelles technologies, pour les avions, pour les voitures, etc., etc. Dans la nature, les plantes grimpantes sont très bien, sont très efficaces pour survivre les chutes des arbres. On dit les chablis en français. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup. C'est le survie des chocs qui sont très, très forts.
On s'inspire des plantes pour tout ce qui va être technologique.
Exactement, exactement.
Allume la science, c'est déjà fini. Un grand merci à Anna Debelandre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.